Vous écoutez RTL.
RTL, il est 9h.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Eh bien, mes enfants, la saison des festivals est ouverte. Dans un instant, tour d'horizon des événements à ne pas rater avec Steven Bellery. C'est un succès inattendu en librairie. L'ouvrage « La vie secrète des arbres » approche les 200 000 exemplaires vendus en France. On reviendra sur ce phénomène avec Bernard Lehu. On souhaite le même succès à la bande dessinée RTL du mois de juin. L'album s'appelle « Giant » et nous transporte dans le New York des années 30. Monique Younes nous le présentera. Charlotte Arrigoni nous livrera ses express du jour. Et puis le magazine de Stéphane Bern, Secret d'Histoire, est de retour ce soir sur France 2 avec un numéro consacré à la reine Margot. Isabelle Morini-Bosque a rencontré notre camarade animateur.
RTL Matin,
laissez-vous tenter.
Musique, vous l'avez compris pour commencer, c'est l'été depuis quelques jours. L'occasion de s'arrêter ce matin sur les festivals qui vont rythmer les prochaines semaines. Bonjour Steven.
Bonjour à tous.
Quels sont les artistes que l'on pourra applaudir cet été?
Ah, vous ne pourrez pas le rater, son deuxième album est un bijou. Il a véritablement changé de dimension cette saison. Vianney.
Si moi aimais-toi, blessez-moi. Si moi aimais-toi. Quand moi aimais-toi, blessez-moi. Quand moi aimais-toi.
Selon le site Sourde Oreille qui fait les comptes chaque année, Vianney sera l'artiste qui donnera le plus de concerts cet été. Encore 19 dates dans son agenda. Il chantera samedi à Bobital, le 7 juillet à Carcassonne, le 16 juillet au Francophonie de La Rochelle ou encore le 4 août à la Foire au Vin de Colmar.
Qui est numéro 2 du classement ?
Claudio Capeo, il est attendu au festival de Poupée le 17 juillet ou dans les arènes du Gros du Roi le 18 août. En un an, il a écoulé plus de 400 000 exemplaires de son premier enregistrement. Un chanteur qui a ramé avant d'être révélé avec The Voice. Forcément, un an plus tard, il jubile.
Je le vis à 1000 à l'heure, je le vis très bien. On est tous super contents. On fait des concerts et enfin, il y a des gens dans les salles. Et c'est notre rêve de gosse qui se réalise, là, qui devient réalité. Depuis 9 ans, c'est les mêmes musiciens. Et on est une grande bande de potes sur la route et on prend plaisir. Et puis, voilà, c'est une histoire de famille, c'est une histoire où on se met sur la gueule quand ça va pas, on se dit tout. Et puis ça aurait pas pu être plus beau que ça, quoi, en fait, au final, quoi. C'est vraiment, c'est juste comme il faut, quoi.
Première chanteuse dans le top des squatteurs de festival, elle se produira notamment au Festival du Bout du Monde à Crozon le 6 août, Imani.
Plusieurs années, c'est le plus gros festival de musique en France. Les Vieilles Charrues prévoient encore des surprises cette année, Steven.
Oui, le festival breton est à nouveau complet cet été pour sa 26e édition. 70 000 personnes attendues chaque soir les 13, 14, 15 et 16 juillet. Un nouveau site de plus de 2 hectares, 2 nouvelles entrées, un bracelet de paiement dématérialisé, une ambiance si singulière aussi et une programmation de folie. Renaud, Camille, Jean-Michel Jarre, Paolo Conte, Kungs, Matmata ou encore Phoenix. Jérôme Tréorel est le directeur général des Vieilles Charrues.
On essaie de proposer la plus belle photographie musicale de l'année. Puis c'est aussi dans l'esprit et les valeurs du festival. C'est une association à but non lucratif. On a plus de 6500 bénévoles qui viennent prêter main forte pour l'organisation de l'événement. On travaille aussi avec les producteurs locaux. Le fait d'être accessible à tous les publics, le prix d'entrée qui est à 44 euros, mais aussi tous les publics, y compris les personnes en situation de handicap. On essaye de concevoir l'événement comme si on invitait des amis dans notre jardin pour une fête et un barbecue.
Le bal de Bamako par Mathieu Chedid, il chantera aux Vieilles Charrues avec son superbe projet L'Amo Mali le jeudi 13 juillet.
Et le lendemain, le 14, il sera au Francophonie de La Rochelle, Steven.
Oui, les Franco qui restent l'un des festivals majeurs tant par sa programmation que par ses créations. C'est la force du rendez-vous charentais, des concerts uniques cette année. Christophe Willem rendra hommage à Michel Berger dont on célébrera les 25 ans de la disparition en août prochain.
Là-bas, je ne suis pas un énorme connaisseur de Michel Berger, donc pour moi, ça a demandé un super gros travail, surtout en parallèle de l'album, parce qu'il fallait vraiment se pencher dessus de manière assez consciencieuse. Et l'idée de faire avec Yvan Cassar, c'était justement de ne pas partir dans une réorchestration. Parce que je pense que quand on touche à un monument comme Michel Berger, c'est assez casse-gueule de partir dans quelque chose, de le moderniser davantage ou autre. Et du coup, je trouvais que le faire que piano-voix et d'être juste axé sur la mélodie et les textes, c'était ce qu'il y avait de mieux pour un concert comme celui-là.
Qu'est-ce qu'on entendra comme titre de Berger ?
Paradis blanc, Je reviens de loin, Diego, Tennessee, parce que c'est les titres qu'il écrit pour les autres. Et alors c'est assez drôle de se retrouver à faire Tennessee avec Yvan Cassar au piano. On prend les contre-pieds, on a des vrais partis pris de se dire que certains titres qui se font dans la force, on les fait complètement dans l'autre sens. Nous, ça nous amuse beaucoup, donc on espère que ça plaira au public.
La création de Christophe Willem, c'est le 13 juillet au Franco de La Rochelle.
On va terminer avec quelques coups de cœur, curiosités ou nouveautés. Hein.
Dans l'ordre, le festival gratuit Fnac Live s'installe à nouveau, place de l'Hôtel de Ville à Paris. Les 6, 7 et 8 juillet sont annoncés Julien Doré, Benjamin Biolay, Calypso Rose, Julien Clerc ou ma chouchou Juliette Armanet. À noter, Zaz lancera son Crussol Festival à Saint-Péret dans l'Ardèche les 8 et 9 juillet, un rendez-vous musical, citoyen et solidaire. Zaz s'explique.
On a monté ce projet Zazimut, donc de faire venir plein d'associations locales sur place. Comme ça, il y a un vrai impact où justement les gens pourront se rencontrer. Et ce qui est important, je pense, c'est de confronter les idées et de montrer les expériences de chacun. On se stimule les uns les autres. Donc il y aura de la musique, il y aura des rencontres, des forums, beaucoup de discussions. Et puis moi, en France, vraiment, j'ai envie de développer cette autre pédagogie dans l'éducation. Et plutôt que de se fâcher contre le système qui te plaît pas, ben, tu fais partie du système de toute façon. Donc de l'intérieur, qu'est-ce que tu peux apporter?
Une dernière nouveauté, le festival Lollapalooza tente de s'implanter en France. Immense rendez-vous d'abord itinérant et depuis 2005 à Chicago. Lollapalooza s'installe sur l'hippodrome de Longchamp à Paris les 22 et 23 juillet. The Weeknd, Red Hot Chili Peppers, Lana Del Rey, LP, I Am ou encore London Grammar seront sur scène. London Grammar, dont le dernier album Truth is a Beautiful Thing fait un très beau parcours dans les charts. Je vous en avais parlé ici même.
Mais oui, nous nous souvenons de tout cela. Merci beaucoup Steven Bellery pour ce tour d'horizon. On passe maintenant à notre soirée télévisée. Les résultats d'audience, voilà, à 9h07, et c'est avec Médiamétrie et Mademoiselle Morini-Bosque.
Pourquoi ils ne sont pas bouleversifiants ? Ransom est en tête, la série de TF1, mais 4 150 000 personnes, il n'y a pas de quoi pavoiser. 19% du public sur la une. En deuxième position, Boulevard du Palais, c'est pas mal. 3 500 000 téléspectateurs pour le 55e et dernier épisode, 16% du public sur la 2. Et ensuite, Le Meilleur Pâtissier, qui est légèrement en hausse également. 2 700 000 personnes étaient devant, 14% du public. C'était pourtant pas de la tarte. Et alors, côté TNT, c'est TMC qui est logiquement en tête. 1 100 000 personnes étaient devant quoi ? Devant le match de foot Portugal-Chili.
Vous me faites rire. Dans quelques instants, nous sommes... Ah non, on continue ? Ah ben, on continue, c'est très bien. Bernard Lehu, parfait. Depuis plus de 3 ans, un livre inédit rencontre un succès inattendu et spectaculaire. Il ne s'agit pas d'un roman, le genre dont on parle ici habituellement, mais d'un document, un ouvrage de vulgarisation scientifique, La vie secrète des arbres, publié aux éditions Les Arènes.
Oui, un livre qui... Pardon ?
Je l'ai acheté.
Ah ben, vous avez bien fait. Un livre qui met à la portée de tous le savoir le plus récent sur les arbres. Et l'on découvre que, comme dans le règne animal, les arbres s'entraident, ou se font concurrence, se défendent contre leurs agresseurs, communiquent, ont une sensibilité, une vie amoureuse, souffrent, auraient une forme de mémoire, voire un cerveau. Bref, les arbres sont des êtres sociaux au comportement insoupçonné et exemplaire, dont l'homme ferait bien de prendre de la graine. Pour Laurent Beccaria, l'éditeur de La vie secrète des arbres, c'est la première raison du succès du livre.
C'est un livre universel, parce que chacun... C'est le loisir préféré des Français, d'aller se promener dans une forêt. Je crois qu'il y a près de 4 millions de Français qui sont propriétaires de forêts. Alors parfois, c'est quelques arbres au bout de leur jardin. C'est très profond en France. Hein, la plus vieille administration française, c'est l'administration des eaux et forêts.
Eaux et forêts.
Qui remonte à Philippe le Bel, ouais. C'est exceptionnel. Et l'histoire de la forêt, c'est aussi une histoire de France, une histoire des hommes. C'est passionnant. Tout le monde aime aller en forêt, tout le monde aime se promener, tout le monde a des souvenirs. On ressent des choses, mais il y a d'abord un savoir que nous n'avons pas tous, comment ça fonctionne. En fait, c'est comme une société humaine. C'est comme une société humaine, mais au lieu d'une vie qui dure 60, 80, 100 ans maintenant aujourd'hui pour les êtres humains, eh bien pour les arbres, c'est 500 ans. Et même certaines souches, c'est 10 000 ans. Donc c'est vraiment le temps long.
Alors précisons que le succès de la vie secrète des arbres est absolument international.
Ah oui, alors près d'un million d'exemplaires vendus en Allemagne, où il a d'abord été publié il y a 2 ans. Il en est désormais à 32 traductions dans le monde. En France, depuis sa sortie discrète en mars, le livre approche désormais la barre des 200 000 ventes. Et à chaque lecteur, eh bien, son anecdote préférée sur ces étonnantes facultés de nos frères les arbres. Laurent Beccaria nous confie la sienne.
Il y a une histoire qui est très étonnante, c'est les rapports entre la girafe et les acacias. Mmh. Quand une girafe attaque un acacia, l'acacia se défend. Il lui faut simplement une heure, un peu de temps pour sécréter une toxine qui rend l'écorce de l'acacia très désagréable pour les girafes et incomestible. Et il envoie des signaux odorifiques à ses voisins jusqu'à 100 mètres pour que eux-mêmes sécrètent cette toxine avant même que la girafe l'attaque. Et les girafes ont compris ça. C'est-à-dire que quand elles commencent à attaquer un acacia, elles attendent le sens du vent. Et quand le sens du vent, ils sont contre le vent, alors là, elles vont chercher un acacia qui est juste derrière. Ça, c'est l'instinct incroyable de l'animal et du végétal. Et ces interactions, il y en a, je vous dis, à chaque paragraphe, on est émerveillé.
Voilà, le jeu de l'acacia et de la girafe.
Mais oui. Alors, parlez-nous de l'auteur de La vie secrète des arbres.
Alors, ben donc, il s'appelle Peter Wohlleben. Il est allemand et il a 53 ans.
Puis l'histoire était formidable, c'est un forestier, un espèce de géant de 2 mètres, au départ dans une exploitation très classique où on fait pousser très vite des arbres, on les coupe de manière... Et il disait, je connaissais des arbres, ce qu'un boucher connaît des animaux. Et puis il a eu une espèce de crise personnelle, ça arrive comme ça, une dépression, sentiment de ne pas être à sa place, et il a fait une quête qui est à la fois scientifique, et il a découvert l'incroyable écosystème, et il s'est dit, mais en fait, on fait une erreur en faisant de l'exploitation industrielle des arbres. Il faut revenir à une exploitation beaucoup plus raisonnée, beaucoup plus vivante de cet écosystème. Et c'est ce qu'il a mis en pratique dans sa commune. Et après, il est devenu un conteur, parce qu'il a le sens. Il y a des gens qui, comme Hubert Reeves, qui parlent des étoiles. Ouais. Enfin, du coup, on a l'impression d'être astrophysicien. Et Peter Wohlleben, quand il parle des arbres, on a l'impression d'être forestier.
Voilà. Laurent Beccaria, l'éditeur heureux de Peter Wohlleben, donc le Hubert Reeves des arbres et des forêts, et son livre Phénomène, La vie secrète des arbres, s'est publié aux Arènes. La lecture qui fera désormais de vos promenades en forêt une aventure scientifique.
Alors, je me disais, il a dû en massacrer les arbres avec un pareil succès. Ben, pas du tout, parce qu'en dernière page, je vois ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées.
Voilà. Un livre qui envoie du bois.
Bon, allez, à tout de suite pour les Express.
RTL Matin,
laissez-vous tenter
avec Yves Calvi, les Express LVT.
9h14, bonjour Charlotte.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Bonjour Charlotte.
Alors, on vous en a déjà parlé dans Laissez-vous tenter, Pierre Berger continue de libérer sa bibliothèque.
Hein. Oui, c'était déjà la 3e vente aux enchères de l'ancien patron de la maison de couture Yves Saint-Laurent, vente cette fois consacrée à la musique et à la poésie. Cette vente, elle a eu lieu à Drouot, à Paris. Le livret des maîtres chanteurs de Nuremberg, corrigé et annoté par Richard Wagner lui-même, a été adjugé pour près de 125 000 euros. Par ailleurs, une édition originale de Calligramme de Guillaume Apollinaire a été cédée à près de 44 000 euros.
Le jury de danse avec les stars sur TF1 perd l'une de ses figures.
En effet, après 5 années de bons et loyaux services, Marie-Claude Pietragala ne fera pas partie du jury la prochaine saison. La danseuse et chorégraphe de 54 ans dit vouloir se consacrer pleinement au projet de sa compagnie de danse. On ne sait pas encore qui prendra sa place. En revanche, Jean-Marc Généreux, Chris Marquez et Favotto devraient poursuivre l'aventure.
La comédie musicale Grease, à la rentrée à Mogador, à Paris, aura une petite particularité.
En effet, puisque la troupe a fait le choix de conserver quelques chansons en anglais, c'est une première. Bien. Et il y aura aussi des sous-titrages en anglais. Grease, je le rappelle, s'installe à Mogador à partir du 28 septembre.
Ça s'annonce vraiment très très bien.
Oui.
Et puis de tristes nouvelles, hein. Deux écrivains nous ont quittés ces dernières heures.
Oui, Pierre Combesco, lauréat du prix Goncourt en 1991 pour Les Filles du Calvaire, est décédé à l'âge de 77 ans. Et puis outre-Manche, disparition aussi de l'anglais Michael Bond, il avait 91 ans, c'est lui qui avait créé en 1958 le célèbre Ours Paddington. Ses livres ont été traduits en plus de 30 langues et vendus à plus de 35 millions d'exemplaires à travers le monde. Au cinéma, Paddington 2, je vous le rappelle, sera dans les salles le 6 décembre prochain.
Dans les salles, oui, dans les salles encore, il y a une particularité. Si vous allez voir Avatar 2.
Avatar 2 sera en 3D, mais cette fois, il n'y aura pas besoin de porter des lunettes pour plonger dans le monde de Pandora. La compagnie James Cameron entend mettre au point un nouveau système de projection. Reste à voir si les cinémas seront prêts à mettre en place l'équipement adéquat, qui sera forcément très cher. Pour cela, ils auront jusqu'au 18 juin 2020, date de sortie du film.
À moins qu'ils le repoussent encore de 2-3 ans.
Oui, c'est vrai que ça a déjà pas mal poussé. Merci beaucoup Charlotte, c'était donc les Express de Laissez-vous tenter. On passe maintenant à notre soirée télévisée. Isabelle Morini-Bosse, quelque chose à dire sur la fin de Juste un regard, le feuilleton d'Arlène Coben sur TF1?
Oui, juste un mot sur Juste un regard. Enfin, un feuilleton policier où on a toutes les réponses à la fin des 6 épisodes. Mais vraiment, c'est pas un fourzitou, chacun comprend ce qu'il veut. Ne partez pas avant le générique, vous louperiez The coup de théâtre final. Juste un regard, Eric en jette plus qu'un coup d'œil.
Mais évidemment, l'événement ce soir, c'est le retour de Secret d'Histoire sur France 2.
Oui, 10e saison. On passe du mardi au jeudi. La parole à Stéphane Bern.
Écoutez, changement de prêt réjouit les veaux. Je suis toujours pour voir le côté positif des choses. Alors, c'est vrai qu'on change les habitudes. Marie-Francine, le film de Valérie Le Mercier, dit que son père, le mardi soir, ne bouge pas. Maintenant, c'est le jeudi soir qu'il va devoir rester chez lui pour regarder Secret d'Histoire. Donc, on ouvre cette 10e saison avec la reine Margot. Je crois beaucoup à la réhabilitation de grandes figures de notre histoire. Vous savez que l'enseignement de l'histoire a mis de côté toutes les figures pour ne s'intéresser qu'aux idées, comme si des gamins de 13, 14 ou 15 ans pouvaient trouver un intérêt à apprendre l'histoire des idées, ça vient plus tard.
Alors, il raconte donc Marguerite de Valois, abusivement renommée Margot par Alexandre Dumas. C'est tourné dans les châteaux où elle vécut, le château Margot, quoi. Mariée un temps au protestant Henri de Navarre, cultivée, intelligente, adepte de l'amour platonique malgré ses très nombreux amants.
Ah bon ?
Elle avait aussi le sens du sublime. Une robe coûtait l'équivalent de 10 ans de salaire d'une famille de paysans. Stéphane Bern la réhabilite, comme il compte sur le nouveau ministre de l'Éducation pour réhabiliter l'histoire.
Monsieur Blanquer a en tout cas envie qu'on arrête les bêtises, comme titrait un magazine il y a quelques jours. C'est vrai que remettre la chronologie, apprendre le français, l'histoire, savoir lire, écrire, compter, enfin c'est ce qu'on attend de l'instruction publique ou de l'éducation nationale. Les profs d'histoire me disent souvent merci avec vos secrets d'histoire, vous savez, je leur recommande de regarder parce que ça permet justement de faire un complément par rapport à leurs livres scolaires où on échappe complètement à la chronologie et aux personnages. On a besoin de ces personnages emblématiques pour raconter notre histoire.
Bon, alors, la reine Margot a fait jaser, mais ce qui fait aussi parler, c'est l'avenir de Stéphane Bern sur la 2. Alors, Stéphane ?
Mais vous savez, je crèche toujours au même endroit sur France 2. Voilà, oui, c'est d'accord. Une certitude. Secret d'histoire tout l'été, c'est pas mal quand même. Il y a beaucoup d'animateurs qui aimeraient apparaître 8 fois au moins dans l'été, tous les jeudis soirs. Le 14 juillet, on me verra au concert de Paris. Je vais faire quelques reportages pendant le défilé, sans me défiler moi-même. Au cœur de l'été, il y aura Soir de fête à Rio, sur un char pour raconter le carnaval. Et puis, à la saison prochaine, c'est vrai que j'abandonne les après-midi, mais pour me concentrer sur des primes, comme par exemple Suivez le guide, une émission divertissante sur le patrimoine avec notre ami Laurent Deutsch, et d'autre part une hebdomadaire fin septembre, début octobre, produite par Catherine Barma, le dimanche juste après notre ami Laurent Ruquier et avant notre autre ami Michel Drucker. Les hommes de 50 ans seront concentrés le dimanche après-midi. Voilà.
Bon, donc comme dit l'autre, jusque-là tout va bien.
Jusqu'à ce qu'on nous demande de partir, mais pour le moment, tout se passe bien, contrairement à ce qu'on a raconté. Il n'y a ni conflit, ni bras de fer. Tout se passe très bien avec la direction de France 2. Je crois qu'ils ont plutôt envie de me mettre en valeur, de me protéger. Je préfère penser que qui trop embrasse mal étreint, je veux faire moins de choses, mais le faire mieux. Et je pense qu'il y aura également des secrets d'histoire à l'automne et à la fin de l'année. Et puis on va me voir le 31 août aussi pour une spéciale sur les Didi. J'ai la faiblesse de penser que je peux vraiment en parler.
L'hebdomadaire, ce sera les animaux.
L'hebdomadaire, ça ne sera pas du tout les animaux, ça sera une émission d'humour.
Voilà, ni brocante, ni les animaux. Donc, pas ce que voulait France 2 et pas ce qu'il voulait lui. C'est ce qu'on appelle une côte mal taillée.
Donc, on en reparlera. Voilà. En tout cas, j'ai hâte de le retrouver dans son île grecque cet été. Voilà.
Et moi à l'antenne.
Je vous comprends très bien, oui. Allez, dans un instant, on est avec Monique Younes.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Monique Younes,
oui.
Vous nous présentez ce matin la bande dessinée RTL 2 juin, il s'agit de Giant, un album édité par Dargo, écrit et dessiné par Michael, un auteur franco-canadien, et sur la couverture couleur sépia, on voit un homme perché sur une poutre, avec New York à ses pieds, dominé par l'Empire State Building.
Exactement.
Oui.
Et ce personnage que vous voyez en couverture, c'est Giant, un colosse irlandais, capable de rassembler deux poutres d'acier au marteau pneumatique en un rien de temps. Il est à la tête de l'équipe qui construit l'ossature du Rockefeller Center à New York, qu'on les appelait les Sky Boys. Ses ouvriers travaillaient sans filet pour ériger les gratte-ciels au cœur de Manhattan. Nous sommes en 1932 et ces acrobates du ciel sont payés 1,50$ de l'heure pour terminer au plus vite l'ossature des 70 étages de la plus haute tour du Rockefeller Center.
Alors, tour rendu célèbre par la photo déjeuner sur un gratte-ciel, dans laquelle on voyait justement 11 ouvriers déjeunant assis, tranquillement, saucissonnant, sur une poutre à 200 mètres d'altitude et sans aucune sécurité.
Voilà, et c'est en découvrant cette célébrissime et vertigineuse photo, datant de 1932, que l'auteur Michael décide de raconter l'histoire de ces immigrés, pour la plupart irlandais, italiens ou suédois, qui risquaient leur vie pour envoyer de l'argent à leur famille, m'a-t-il dit, du Canada où il habite actuellement.
Ceux qui ont construit les pays, souvent, ben, ce sont les immigrants. On a connu ça en France aussi. Et parler de ces ouvriers-là à New York, ces Irlandais, ces Scandinaves, ce sont eux qui ont construit la skyline que l'on connaît de New York. Dans un contexte où on dit que les migrants n'apportent rien au pays qui les reçoit, si ce n'est des soucis, ben, je voulais pointer du doigt sur le fait que ben, peut-être pas. Peut-être au contraire, les immigrants amènent une richesse.
Les travailleurs immigrés, c'est le thème universel par excellence. Mais ce Giant a-t-il une histoire particulière?
Alors, il a en effet un passé compliqué, mais on ne sait pas encore en quoi il consiste, car ce n'est que le premier volume. Alors, les choses vont se révéler peu à peu, et en attendant, ce qu'on voit, c'est que Giant est un taiseux que personne ne peut approcher. On ne lui connaît pas de femme, pas de famille. Il vit seul, contrairement à ses coéquipiers qui crèchent dans des cabanons pas loin de Central Park, et le but étant d'épargner au maximum pour envoyer la paye à la famille restée au pays, créant ainsi, dans leur huis clos, une famille d'infortune.
Je voulais aussi raconter ce milieu d'hommes qui s'entraident, en fait. Les Skyboys, les travailleurs du ciel, comme ça, étaient pour les gens des quartiers populaires, et c'était des héros. C'est eux qui construisaient les buildings, et en plus, ils gagnaient bien leur vie. C'était eux qui avaient réussi. D'ailleurs, il y a la voisine de Giant, qui est une artiste un petit peu ratée, qui cherche un bon parti, et puis qui voit en Giant, bah, c'est le bon parti à épouser. Et, alors que d'autres pourraient penser qu'un bon parti à épouser, c'est un riche banquier ou un homme d'affaires richissime. Au niveau des gens du peuple, bah, les héros, ce sont les Skyboys, en fait.
Et tous les Skyboys ne sont pas aussi taciturnes que Giant. Le dernier arrivé sur le chantier s'appelle Dan, un apprenti rifter, assez enjoué, qui ne voit dans la vie que son bon côté. Son entrain et sa joie de vivre défient la misère. Il n'a de cesse de montrer à ses coéquipiers que la misère n'est pas une fatalité. L'essentiel pour lui est de ne pas passer à côté de sa vie, qu'on soit riche ou miséreux.
Alors, il y a une morale à tirer de cette bande dessinée ?
Alors, s'il y en a une, c'est que la force physique ne vaut rien sans la force mentale. Et à cette chronique formidablement restituée dans Chantier à New York dans les années 30, s'ajoute l'histoire de ces Irlandais qui ont fui leur pays dans lequel ils ne se reconnaissaient plus. Le dessin de Michael couleur sépia correspond parfaitement à cette ambiance sombre et industrieuse qui aspire à devenir le centre du monde. Ce retour dans les années 30 a pour titre Giant. Son auteur s'appelle Michael. C'est édité par Dargo au prix de 13,99€ et c'est notre bande dessinée RTL
du mois de juin. Merci Monique Younes. Dans quelques instants, nous nous disons au revoir et nous accueillons Julien Courbet. Vous avez quelque chose à nous annoncer pour demain, Monique Younes ?
Mais oui, on aura Audrey Tautou en exclusivité, que j'ai rencontrée, et qui va nous parler de ses photos qu'elle expose à Arles, à l'abbaye de Montmajour, dans le cadre du Festival international.
Mademoiselle Morini Boss.
Et il y aura la dernière de Georges Pernoux sur les pas de la Pérouse, voilà.
Et ben voilà, c'est parfait. Merci beaucoup à toute l'équipe. Et bonjour.
Bonjour, ça va? J'ai deux invités aujourd'hui.
Dites-nous.
Audrey Tautou qui va me parler de son exposition et c'est Georges Pernoux qui va me parler de sa dernière demain. Voilà, on va parler de ça pendant une heure et demie.
Pirate.
Pardon?
C'est drôle.
Bah, demain, vous n'aurez qu'à régler quelques cas.
Très volontiers.
Bon, bah, écoutez, merci et bonne journée alors.
Bonne journée à vous.
À très bientôt.